Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Donc, 2020 est l'année où l'on découvre que Michel Hazanavicius possède également, je pourrais dire possède en plus, le talent de Tim Burton. Je dis également car Michel Hazanavicius a un talent pluriel qui le révèle virtuose dans un genre chaque fois différent à chaque nouveau film. Le 12 février, et ben c'est une comédie fantastique familiale qui sort en salle avec Omar Sy, Bérénice Bejo et François Damiens. Son titre, Le Prince oublié. Un conte d'une féerie aussi euphorisante que si elle avait été imaginée dans les studios Pixar. Bonjour et bienvenue, Michel Hazanavicius.
Bonjour, merci.
Europe 1.
Bon, Michel Hazanavicius, aujourd'hui en 2020, le jouet le plus fascinant pour un créatif, ça demeure vraiment le cinéma ?
Oui, je crois.
Ah, c'est... il est long le «
Oui, non, parce que je réfléchissais sur le côté créatif, mais en tous les cas, le jouet le plus excitant pour moi, après ça dépend de pour chacun, mais c'est quand même un... C'est difficile d'imaginer un train électrique plus riche et plus beau, avec autant de manettes et autant de gens comme ça que vous pouvez amener à jouer avec vous.
Alors, vous dites que chaque film ressemble à son réalisateur. Vous avez donc une personnalité plurielle, vu le relief hallucinant de votre filmographie. Les deux OSS 117, The Artist et ses 5 Oscars, The Search, grand film de guerre sur la guerre en Tchétchénie, Le Redoutable, film sur Jean-Luc Godard, et puis à présent Le Prince oublié qui marie la réalité au merveilleux avec vraiment des effets spéciaux dignes de Pixar. Vous êtes donc dans ce mood-là en ce moment, c'est-à-dire que vous êtes le père de 4 enfants, dont la petite dernière a je crois 8 ans, et en fait, vous interrogez sur le temps qui s'enfuit, la force des mondes imaginaires qui aide à supporter la réalité.
C'est-à-dire, c'est pas par séquence, c'est pas à chaque fois que je fais un film, je serai uniquement quelqu'un qui s'intéresse à Godard.
Non,
ou uniquement...
bien sûr, mais donc soudain vous avez la possibilité de l'aborder.
D'appuyer, exactement, d'appuyer sur cette facette de ma personnalité, mais moi je suis comme tout le monde, c'est-à-dire je suis plein de trucs à la fois. On voudrait toujours réduire un auteur à sa production, mais en fait... On est plein de choses. Je ne sais pas, Audiard est père de famille, si vous voulez. Donc, donc moi, j'essaye effectivement de... Je suis assez curieux, en fait, et les cinémas me permettent de laisser s'exprimer plusieurs facettes de ma personnalité. Et effectivement, être père de 4 enfants, ça prend énormément de place, toujours. Et ce film-là correspond, ouais, d'une certaine manière, correspond au père que je suis.
Alors, personne ne résumera mieux le pitch du Prince oublié que vous, Michel Hazanavicius. Bah voilà, il est temps de nous livrer le postulat de cette histoire qui convoque vraiment le merveilleux dans cette époque si morose.
Oui, alors c'est l'histoire d'un père qui vit seul avec sa fille et qui doit faire face à ce problème éternel que connaissent tous les parents, qui est de, à un moment donné, décrocher un petit peu, faire un petit pas en arrière et accepter que son enfant sorte de l'enfance, justement, et commence à devenir un individu à part entière, et qui fait des choix, et tout d'un coup, en tant que parent, vous n'êtes plus le prince, vous n'êtes plus le héros de l'enfant. Et l'histoire est ainsi faite, elle a été imaginée par un scénariste qui s'appelle Bruno Merle, l'histoire est ainsi faite qu'on a accès au monde intérieur de ce père, ce qui permet de la raconter sur deux niveaux différents, et il s'avère que ce qui n'a l'air de rien vu de l'extérieur, à savoir laisser grandir son enfant, à l'intérieur, c'est une aventure beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus épique, avec des conflits beaucoup plus forts. Donc moi, quand on m'a proposé cette histoire-là, cet intérêt du double niveau, ça m'a amené, en plus des thèmes qui m'ont touché profondément, une excitation de réalisateur, une excitation cinématographique.
Alors, effectivement, Le Prince oublié, c'est un film familial avec un immense challenge technique. Pour ce qui se déroule dans le monde imaginaire du héros, donc joué par Omar Sy, la profusion et l'ampleur des effets spéciaux nous transportent vraiment, j'ai parlé de Pixar, j'aurais pu dire DreamWorks, mais vous avez travaillé à Brie-sur-Marne, où vous avez créé donc toutes les rues et les décors du conte, et pour le ciel, le soleil, l'horizon, toutes les créatures surréalistes qui traversent cette histoire, vous avez confié le travail à des virtuoses du digital qui sont tous français, c'est ça ?
Oui, c'était vraiment une volonté dès le départ de faire un film français en France avec des équipes françaises. C'est vrai que je me suis retrouvé avec des gamins qui, parce que l'ampleur du film les excitait, ont fait des propositions de personnages, des propositions de décors, des propositions... Et en fait, c'était hyper agréable d'avoir une équipe aussi motivée.
Ouais.
Autour d'un film qui demandait ça.
Et alors, il paraît que après avoir lu le scénario, Bérénice Bejo, votre épouse qui joue dans le film, s'est exclamée « Mais En fait, c'est le même thème que The Artist. C'est-à-dire que le héros, soudain, va être remplacé, il va perdre son prestige, se sentir inutile, il va être relégué, pendant que l'industrie du divertissement met en place le nouveau personnage qui va démoder le précédent, c'est ça ?
Oui, il y a une espèce de cousinage, mais en fait, qui n'était pas tout à fait conscient de ma part. Parce qu'effectivement, le procédé qui permet d'aller dans le monde imaginaire est le fait que, tous les soirs, le père raconte des histoires à sa fille, et donc le film va dans ces histoires-là, et quand les histoires s'arrêtent, on reste avec les personnages de l'histoire. Donc, ce monde imaginaire, c'est le monde des personnages des histoires racontées par le père, et effectivement, c'est un endroit où se racontent les histoires. Donc, il y a un écho évident à un plateau de cinéma.
Mais je dis aux auditeurs que ça n'a absolument rien à voir avec des artistes, bien sûr.
Alors, c'est déjà nettement plus coloré, et il y a nettement plus de son, en effet.
Bon, en fait, il y a plein de niveaux de lecture dans ce film, Le Prince oublié, qui s'adresse à toutes les générations. Par exemple, il y a des métaphores que je trouve assez pertinentes, assez cruelles, sur les coulisses et l'envers du décor de l'industrie du cinéma. Ça, c'est pour les parents.
Oui, oui. Alors, il y a des personnages dans cet endroit où se racontent les histoires. Il y a des personnages qu'on n'appelle plus. On ne les appelle plus pour raconter les histoires. Et c'est d'ailleurs la grande problématique du prince, qui est lui aussi joué par le même acteur qui joue le père, à savoir Omar Sy, qui est qu'à un moment donné, la petite ne veut plus d'histoire, donc lui, on lui demande plus de raconter des histoires, et donc il se retrouve en fait au chômage, et donc comme d'autres personnages, c'est des personnages qui sont un peu voués à l'oubli, qui sont mis sur des voies de garage et tout, donc il y a une espèce de petite cruauté, alors pas très dangereuse, parce que c'est un film qui accueille les enfants,
bien sûr.
Il y a une espèce de cruauté sur ces personnages qui sont un peu, qui passent de mode en fait.
Au sujet d'Omar Sy, Michel Hazanavicius, vous dites son humanité éclate à l'image dès que vous le filmez. 90% des acteurs rêvent de posséder ça, mais ça ne se fabrique pas. C'est la première fois que vous tournez avec lui, ça vous a frappé, ça ?
Oui, ça m'a frappé au moment de le filmer, sur les tout premiers plans que j'ai fait de lui, où il y avait vraiment quelque chose qui se passait. Comme être humain, je le connaissais. Et je savais que c'était quelqu'un qui, son humanité n'est pas feinte, sa gentillesse, sa bonté d'âme n'est pas feinte, il est un peu plus que ce que vous espérez qu'il soit, en fait, quand vous connaissez le personnage public. Mais effectivement, quand vous le filmez, il y a un truc qui se dégage, une humanité qui se dégage. La caméra, sur certains acteurs, scanne, et elle arrive à filmer l'intérieur. Et lui, vraiment, ce qui se passe à l'intérieur, c'est bien, en fait. Et c'est beau à filmer.
Alors, le plus important dans ce métier, c'est de bien savoir dans quel projet on s'engage quand on est réalisateur de films, parce qu'un projet qui devient un film prend au moins 4 ans d'une vie. Il faut donc être dans le bon timing par rapport à soi, c'est-à-dire le réalisateur, par rapport à la société, par rapport à l'ère du temps. Un décalage de 6 mois, parfois, ça peut changer la donne, Michel Hazanavicius ?
Oui, maintenant, je crois que c'est incalculable. Enfin, en tous les cas, moi, je n'ai pas assez de sens de la stratégie pour pouvoir calculer, donc je n'ai jamais essayé de calculer. J'ai une filmographie qui en est la preuve, d'ailleurs. Et donc, je ne sais pas calculer. Du coup, je fais confiance, en fait, à mon désir. C'est-à-dire la manière, pour moi, la plus honnête, finalement, décontractée de faire des films. C'est-à-dire, vraiment, c'est le film qui provoque en moi le désir le plus fort. Et bien, c'est celui dans lequel je vais m'engager. Et puis, voilà. Parfois, on rencontre le public, parfois non. Vous pouvez rien faire, mais il faut continuer à raconter des histoires.
Eh bien, le film qui est porté par le désir le plus fort du moment de Michel Hazanavicius a pour titre Le Prince oublié. Ce prince est incarné par Omar Sy. Omar Sy, entouré de Bérénice Bejo, de François Damiens, tous deux irrésistibles. Le film sort le 12 février et Michel Hazanavicius, son réalisateur, est mon invité.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Europe 1.
Jusqu'à 16h, vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie avec Isabelle Morizet et son invité aujourd'hui, le réalisateur Michel Hazanavicius, pour la sortie de son nouveau film, Un joli conte entre animation et scène réelle.
Si, il existe un remède à cette époque morose. Vous allez en famille, au cinéma, dès le 12 février, prendre des places pour Le Prince oublié, la nouvelle comédie fantastique de Michel Hazanavicius avec Omar Sy, Bérénice Bejo et François Damiens. Et l'effet est garanti. Alors, cher Michel Hazanavicius, qu'est-ce qui décide ? Un enfant de 10 ans, dont les parents ne travaillent absolument pas dans le milieu du cinéma, et paraît-il n'ont pas la télévision, encore moins de magnétoscope dans un salon, puisqu'à l'époque ça n'existait pas quand vous aviez 10 ans, qu'est-ce qui décide cet enfant-là à se dire « Moi, plus tard, je réaliserai des films ».
Une espèce de forme de... Alors, soit d'ultra-prétention, soit d'insouciance, soit de... Mais en fait, je l'ai pas décidé. Et puis après, j'ai appliqué ce truc. J'ai été, je crois, fasciné en allant au cinéma. J'étais fasciné par ce que je voyais, cette manière qu'on avait de me raconter des histoires. Et le jour où j'ai compris que quelqu'un racontait les histoires, qu'il y avait quelqu'un qui prenait toutes ces décisions-là, c'est vrai que je me suis dit, voilà, j'ai envie d'être ce type que je ne vois pas, mais qui est derrière.
Mais alors, en même temps, parallèlement à ça, vous avez vu Le Troisième Homme de Carol Reed avec Orson Welles. J'imagine que vous l'avez vu dans une salle d'art et essai, parce que ce film en noir et blanc, il est sorti en 49. Qui vous a rendu curieux de ce cinéma-là ?
Alors, en 49, j'avais 12 ans.
c'est pour ça que je vous pose la question.
Il y avait quand même une espèce de cinéphilie chez mes parents. Et puis à l'époque, il y avait quand même de la cinéphilie. C'est-à-dire qu'on pouvait aller voir Les Sept Samouraïs, on pouvait aller voir des Orson Welles. Il y avait de l'autre côté des grands boulevards, par rapport à chez moi, un petit cinéma qui s'appelait L'Action Lafayette, qui était vraiment de l'arrêt essai pur et dur. Et là, il y avait des cycles. Alors, il y avait aussi bien le cycle Humphrey Bogart, le cycle Orson Welles, le cycle Groucho, enfin, les Marx Brothers. Et c'est vrai que là, soudain, le Troisième Homme, mais je crois que j'avais déjà, je sais pas, 13 ans, 12, 13 ans. Et j'ai été, subjugué par le fait qu'on pouvait construire des images et que la construction des images voulait dire quelque chose, que ça signifiait quelque chose, que c'était pas juste des mots et des acteurs. Et c'est vrai que là, tout d'un coup, il y a une espèce de petite porte aussi qui s'est ouverte. Ouais, là, mon rapport aux images... Alors, je dessinais beaucoup, mais mon rapport aux images, après Le Troisième Homme, a changé. Ouais.
Mais alors, Michel Hazanavicius, pourquoi n'avez-vous pas fait l'IDEC, incontournable école de cinéma, aujourd'hui baptisée la Fémis ? Vous êtes inscrit dans une école d'art. C'est parce que ça rassurait vos parents, immigrés de Lituanie, quant à vos possibilités d'intégration. Ils trouvaient que c'était beaucoup trop aventureux de faire une école de cinéma ?
Non, si j'avais fait une école de cinéma, ils auraient été ravis.
Alors, pourquoi pas ?
Malheureusement, mais vraiment j'en ai un peu honte, mais je vous le dis quand même, une forme de prétention de se dire je vais pas aller apprendre la même chose que tous mes camarades, parce que sinon on va tous faire la même chose, donc à part ça c'était passionnant.
Ouais, alors par exemple, l'art du détournement, Michel Hazanavicius, qui était vraiment votre signature quand vous avez commencé à tourner. C'est en école d'art, il paraît que vous l'avez d'abord expérimenté. On vous avait envoyé à Beaubourg voir une expo complètement surréaliste, avec des films détournés, comme un film d'arts martiaux chinois, tourné au tout début des années 70, doublé par Patrick Devers, dont les commentaires n'avaient absolument rien à voir avec les images.
Alors ça, c'était une grande exposition sur les situationnistes, effectivement. Et donc, il y a des films qui sont assez mythiques, doublés par René Vienney. Qui est La dialectique peut-elle casser des briques et les petites culottes en été. Donc tout ça, c'est la bande de Guy Debord et l'international situationniste, qui était à la fois un courant artistique, politique, anarcho. Voilà.
Parce que cet art du détournement, vous l'avez appliqué dès que vous avez commencé à travailler sur Canal avec les nuls. Leur faux journal, en fait, ne reposait que sur du détournement d'images.
Il jouait beaucoup sur le détournement, la parodie. Et effectivement, dans les nuls de l'émission, moi, je m'occupais des images détournées à l'intérieur. Et c'est vrai que j'avais commencé en école d'art. J'avais fait, pendant les élections présidentielles de 88, j'avais été chercher des affiches électorales dans tous les QG de tous les partis politiques, et j'avais joué avec pour détourner les slogans, détourner les images, etc. Ouais. Et faire des fausses affiches déconnantes, mais des fausses affiches partout que j'avais été recollé dans les rues.
Donc finalement, tout ça, ça fait partie des fondamentaux au cinéma pour la comédie, et vous en êtes servi pour les OSS 117.
Ah bah, grave, oui.
Grave.
Ah ouais. oui. Mais, et puis alors, il y a vraiment la formation avec les nuls, où là, vraiment, j'ai énormément appris grâce aux nuls, à travailler, à aborder, à réfléchir, à écrire, etc. Et puis ensuite, j'ai fait des films de détournement pur et dur, qui s'appelle La Classe Américaine.
Ah bah, on va l'évoquer, voilà. Bien sûr, devenu culte.
Voilà.
Et bien sûr, qu'on peut le voir sur le net.
Bien, on peut ne le voir... On ne peut le voir que sur le net. Et c'est vrai que tout ce travail-là m'a énormément aidé pour OSS, m'a amené, disons, assez naturellement à OSS. Ouais.
On retrouve tout de suite Michel Hazanavicius.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1. Europe 1.
Il est 15h21 et vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. On retrouve Isabelle Morizet qui reçoit cet après-midi le réalisateur de The Artist, Michel Hazanavicius, pour son nouveau film Le Prince Oublié.
Son nouveau film, comédie fantastique familiale, sort en salle le 12 février avec Omar Sy, Bérénice Bejo et François Damiens. Michel Hazanavicius est mon invité cet après-midi et on agite les souvenirs. Alors on va continuer, Michel, de dérouler le fil. Après l'arrêt de l'émission Des Nuls sur Canal, un producteur a proposé à Alain Chabat de faire un film à partir d'images de séries de télé. On parlait tout à l'heure de l'art du détournement. Chabat a décliné pour les raisons qui sont les siennes et il a suggéré votre nom. Vous avez donc fait ce film et de fil en aiguille, vous avez réalisé un film donc jamais commercialisé, qu'on a évoqué à l'instant, mais vraiment devenu culte en piratant tous les classiques de l'âge d'or de Hollywood, un film qu'on peut voir sur Internet, La Classe américaine, avec vraiment le plus beau casting de toute l'histoire du cinéma, John Wayne, Kirk Douglas, Paul Newman, Robert Redford, Dustin Hoffman. En fait, c'est un film unique à plus d'un titre.
Déjà, ce qu'il a d'unique, c'est qu'effectivement, ce n'est pas de la marchandise. C'est-à-dire que personne ne gagne de l'argent avec et personne n'en dépense. C'est-à-dire que c'est un film gratuit. Et donc ça, je crois que c'est assez unique. Le niveau du casting est effectivement très très haut. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup comme ça. Et puis, je dirais que le niveau intellectuel non plus est très très bas. Il n'y a pas beaucoup de films non plus qui soient beaucoup plus bas en termes de niveau intellectuel. Non, mais je veux dire, c'est vraiment de la connerie. 100%
c'est potache.
Hyper potache.
Bon, Michel Hazevicius, après La Classe américaine, bah vous êtes devenu le roi de la pub, en proposant pour des pubs un gros budget, hein, des scénarios complètement loufoques. Il paraît que vous faisiez toujours deux versions, en fait. Une fidèle à ce que voulait l'annonceur, et puis l'autre déjantée, qui était une espèce de contre-proposition. On vous a toujours pris la dernière, c'est ça ?
Oui, alors, roi de la pub, je dirais petite vedette de la pub.
Ah, tout de même !
Non, mais oui, parce que, en fait, la première pub que j'ai faite a eu un prix à Cannes.
Oui, les Lions Cannes, prix d'argent.
Voilà, et du coup, c'est vrai que ça m'a donné une espèce de petit statut un peu cool. Mais des rois de la pub, il y en a tellement, si vous voulez.
Mais comme Patrice Lecomte.
Ouais, bien sûr, exactement. Je faisais toujours la première proposition qu'on m'avait donnée, et puis je faisais toujours une version parallèle, et en général, c'est vrai que c'était plutôt celle-là qui était prise.
Voilà, c'était de bon augure pour les futurs comédies et les futurs OSS 117. Mais à cette époque-là, toujours, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, Michel Hazanavicius. J'ai appris que Éric et Ramzy voulaient absolument que vous réalisiez pour eux le film Les Dalton, dont vous aviez écrit le scénario. Et la direction du GC a refusé en disant que vous n'étiez qu'un copain, juste un copain d'Éric et Ramzy, absolument pas un réalisateur. Est-ce que vous les avez recroisés après vos 5 Oscars pour The Artist ?
Oui, c'est tellement
anecdotique. Non, mais tout de même.
Oui, mais c'est marrant en fait. Enfin, je veux dire.
Ils avaient quelqu'un d'autre en tête pour réaliser Les Dalton, ouais, et exactement. Les Dalton, ça n'a pas marché.
Vous savez, le succès, l'insuccès, c'est difficile de dire à cause de qui, à cause de quoi, mais le fait est que ça n'a pas marché autant que prévu.
Alors, comment est arrivée la proposition du premier OSS 117 ?
Eh bien, c'est donc Jean-François Alain qui avait écrit pour les frères Altmeyer un scénario. Et en fait, ce scénario, visiblement, il l'avait proposé à quelques réalisateurs. Du coup, Jean-François...
Vous savez pourquoi il a été refusé, ce scénario ?
Je crois que c'est à cause des vannes qui pouvaient être prises pour racistes ou mal comprises, etc. Et en fait, moi, quand j'ai eu le scénario, je me suis senti ultra à l'aise là-dedans et très à l'aise. Alors, avec le recul, je me dis, bon, c'était peut-être jouer un peu avec le feu, mais c'est vrai que moi, ça me correspondait tellement bien que je n'ai même pas eu l'ombre d'une hésitation. J'ai sauté là-dessus comme un mort de faim parce que j'ai adoré travailler sur ce film.
Et les deux films ont été des triomphes. Alors, à chaque film, Michel Hazanavicius, vous avez, j'ai presque envie de dire, vous avez mué, retiré une peau. C'est-à-dire que vous êtes passé de OSS 117 à The Artist, de The Artist à The Search, film de guerre grandiose et d'une noirceur bouleversante sur la guerre en Tchétchénie en 99. Puis il y a eu Le Redoutable, déconstruisant la légende de Jean-Luc Godard, et le 12 février en salle, donc une comédie fantastique avec, dans le rôle titre, le prince oublié, Omar Sy. Chaque nouveau film vous affranchit du passé.
C'est compliqué de théoriser parce que je ne théorise pas. Donc j'accepte tout ce qu'on me dit, en fait. Non, mais je veux dire, on pourrait me dire, mais alors, vous êtes complètement débile, vous faites n'importe quoi. Je dirais oui.
Donc, heureusement que j'ai dit chaque nouveau film vous affranchit du passé.
Non,
parce que...
vous l'avez dit très gentiment, mais mais c'est vrai que ne calculant pas, j'ai du mal à théoriser, mais c'est vrai que je suis à chaque fois hyper sincère, vraiment hyper sincère dans Le Redoutable. Est un film très très sincère, enfin je veux dire qui c'est peut-être le film qui me ressemble le plus.
C'est vrai ?
Peut-être, je crois que c'est une forme, je dirais que j'ai un peu l'impression quand j'y pense que j'ai mis un nez rouge, mais que finalement j'ai beaucoup parlé de moi de manière peut-être la plus frontale. Mais c'est vrai que le film sur la Tchétchénie est un film qui me tient énormément à cœur et dans lequel j'ai aussi dévoilé un truc, alors sans aucune forme de second degré, sans aucune forme, quelque chose de brut. avec ce sentiment que j'avais que finalement, peut-être qu'on a basculé dans une époque où être transgressif et subversif aujourd'hui, c'est d'être au premier degré. C'est-à-dire, c'est un peu l'impression que j'ai maintenant. Il y a un danger de rire de tout systématiquement tout le temps, quoi. Mais c'est vrai que c'est un sujet de réflexion pour moi. Donc, pour revenir à The Search, c'est vrai que c'est un film où il n'y a pas du tout, pour le coup, de second degré. Il n'y a pas de... Celui-là est très joyeux.
Non, vous avancez. Ouais, oui, celui-là, voilà, il est exactement. Euphorisant même.
Ouais, celui-là, il est très joyeux, il est très... Et très tendre. Je suis étonné, par exemple, les grands-parents, je n'avais pas du tout spécialement pensé à eux, enfin, mais les grands-parents sont, alors eux, carrément ultra touchés par le film. Mais vraiment hyper touchés, quoi. Il y a un truc sur la transmission, l'importance de raconter des histoires, l'importance de transmettre un rapport à l'imaginaire, etc., etc., qui est une partie du film. Le film n'est pas ça,
non,
exclusivement.
Mais c'est une grande partie du film.
Ouais, ce qu'il y a derrière la vanne, c'est il y a un peu de ça, et ça les touche énormément.
On retrouve tout de suite Michel Hazanavicius.
Europe 1. La conversation entre Isabelle Morizet et son invité se poursuit jusqu'à 16h sur Europe 1. Et cet après-midi, elle retrace le parcours du réalisateur Michel Hazanavicius à l'occasion de la sortie en salle dans 2 semaines de son nouveau film. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Michel Hazanavicius a rêvé en très très grand pour sa nouvelle comédie qui mêle le fantastique au réel et est portée par Omar Sy, Bérénice Bejo et François Damiens. C'est Le Prince oublié qui sort en salle le 12 février. Michel Hazanavicius, vous dites « Mon cinéma s'adresse aux gens normaux, mais pour s'adresser à eux, il faut passer par les critiques de cinéma qui ne sont pas tout à fait des gens normaux. Voir un film, c'est comme la psychanalyse. Faut payer. En payant, on exprime un désir. Quand on ne paye pas, la présence à la projection du film n'est pas l'expression d'un désir. Donc, il y a quelque chose de vicié dès le départ. En fait, c'est un étrange métier, critique de cinéma, si à aucun moment de sa vie, on décide de créer. C'est un métier curieux.
Ah, je ne sais pas si c'est un métier curieux, je ne sais pas, mais je suis assez d'accord avec ce que j'ai dit, finalement.
Toujours d'accord.
Oui, non, mais c'est vrai ça. Que le cinéma, ça doit être c'est du plaisir. On peut travailler et avoir du plaisir, ce n'est pas le problème. Mais c'est vrai que l'idée d'aller au boulot, qui est de regarder des films et de donner son avis un peu coûte que coûte, et dans une ligne éditoriale, etc.
Dans une ligne éditoriale, bien sûr.
C'est une perspective de regarder les films qui est vraiment celle des critiques.
Puisqu'on ne critique pas à Télérama comme on critique
Mickey
dans le
Magazine.
Parisien.
Bien sûr, c'est, oui, mais après c'est le jeu. Hein, je veux dire, je ne suis pas du tout en train de... Je ne remets rien du tout en question, etc. Mais c'est vrai que le rapport des gens au film, il n'est pas ça. Le rapport des gens au film, c'est « Ah, oh, j'ai envie d'aller voir ça ». Et je paye, et je m'assois, et je prends un pop-corn ou pas d'ailleurs, mais j'ai envie de voir, et donc j'ai envie que ça marche. On sait bien que c'est des acteurs, et on sait bien qu'ils ne sont pas en train de se parler pour de vrai et tout, mais on croit au personnage, parce qu'on est actif, on croit. Le critique, peut-être, est un peu plus sceptique.
Il n'amène pas cette énergie-là. Alors, des critiques de films, en plus, le critique de cinéma, il va en faire des centaines, peut-être des milliers dans sa carrière, pendant qu'un cinéaste, lui, fera dans sa vie 10 ou 12 films. Donc le temps n'a pas la même définition pour l'un et l'autre.
Oui, lui, il en voit passer plein, c'est sûr. Pour nous, un film est précieux en le sens où il est rare. Bon, après, ils ont des éléments de comparaison sans doute beaucoup plus riches que les nôtres, c'est sûr. Mais d'une certaine manière, encore une fois, c'est le jeu. Hein. Il y a pas de...
Non, mais bien
quand
sûr.
On prend la parole, on se dit ouais. « Ah, j'ai une histoire à vous raconter », bon, il faut s'attendre à ce que des gens disent « Ouais, elle est nulle, ton histoire ». C'est comme ça. Hein.
En tout cas, la personne n'a dit que c'était nul. Je prends l'exemple des artistes. A récolté 5 Oscars à Hollywood. C'est pas anodin. D'ailleurs, vous dites que ce fut un triomphe insolent, immédiat, hors norme. Vous n'avez pas profité de cette gloire si confortable, puisque vous êtes très vite parti tourner un film audacieux qui vous tenait à cœur, Michel Hazanavicius, un film grandiose et terrible sur la guerre en Tchétchénie. J'ai appris qu'à la projection presse de The Search, au Festival de Cannes, en fait, ce sont les journalistes russes qui ont sifflé le film. En plus, vous avez été, paraît-il, en deçà des horreurs commises par les Russes montrées à l'image. Mais comment se fait-il ensuite que la presse ait suivi le mouvement alors que la projection officielle, le soir à Cannes, s'était très très bien déroulée ?
Écoutez, c'était très difficile à expliquer, très difficile à comprendre. Comme je vous disais tout à l'heure, moi je me suis mis dans une logique de allez, voilà, va au prochain film, continue, raconte une autre histoire. Celle-là, elle a pas. Le film a fait vraiment un bel échec.
On dit qu'un peuple qui perd la guerre n'a pas le droit de la raconter, n'est-ce pas ? Mais
oui,
il paraît, Michel Hazanavicius, que le gouvernement de la Tchétchénie libre, qui a profondément aimé votre film, The Search, vous a remis un passeport tchétchène.
Oui. Oui, il y a effectivement un gouvernement libre qui est un peu l'équivalent de ce que pouvait être la France libre pendant l'occupation. Ils sont un peu disséminés partout en Europe et ils se sont réunis et on a fait une espèce de petite cérémonie. Et effectivement, ils m'ont remis. J'ai un passeport de Tchétchène.
Bon, ça, c'est la plus belle récompense.
Ah, j'étais hyper fier de ça. Ouais.
The Search. Vous le referiez de la même façon ?
Oui, enfin de la même façon, alors je ne sais pas, je ne le referais pas de la même façon. Je referais la même expérience humaine, parce que c'était au-delà de tout, mais je le ferais différemment. Je vais vous dire pourquoi.
Pourquoi ?
Mais parce qu'il m'a manqué le public en fait. Et ce n'est pas tellement pour que le film marche ou pas, mais je fais vraiment les films pour le public et je me dis, il y a un truc qui n'a pas marché. Donc moi, aller à Cannes ou avoir des bonnes critiques s'il n'y a personne. Et encore une fois, ce n'est pas du tout une histoire d'argent, c'est une histoire de... C'est pour les gens que je fais des films. Avoir raison tout seul dans votre coin, ça n'a aucun sens. Et ne convaincre que des gens qui sont déjà convaincus, ça n'a aucun sens non plus. Donc il y a besoin de cette ouverture pour tous les films, a fortiori pour les films politiques.
Je reviens à cette fameuse soirée hallucinante des Oscars. 5 Oscars récoltés, donc, pour des artistes. Jean Dujardin est resté un peu à Hollywood. Vous, très vite, Michel Hazanavicius, vous êtes parti tourner. Mais je voudrais savoir, est-ce que vous avez vécu les Oscars, même si l'exposition qui était la vôtre était différente, parce que on sait bien l'hystérie qu'il peut y avoir autour d'un acteur, mais est-ce que vous avez vécu les Oscars comme Jean Dujardin, lui, les a savourés. Alors que vous avez remporté l'Oscar du meilleur réalisateur, lui, celui du meilleur acteur. Comment vous les avez vécus, chacun ?
On n'était pas chacun de notre côté, on était ensemble. Moi, j'avais l'énorme chance d'avoir Bérénice avec moi. Et même si à la fin, elle n'a pas eu de statuette, mais elle a été quand même nominée à cette cérémonie.
Ouais.
Et en fait, quand vous êtes deux et quand vous êtes en couple, il y a quelque chose... En fait, dès qu'il y en a un qui s'éloigne d'un truc, soit qui vit pas bien quelque chose, soit qui vit trop bien quelque chose, l'autre est là pour ramener, parce qu'on se tient par la main, en fait. Donc, on part pas en vrille tout seul. En fait, c'est impossible de pas savourer. Imaginez un film où, au départ, en gros, même moi, j'ai commencé en me disant, bon, il y a 90% de chances que le film ne se fasse jamais, mais c'est pas grave, je vais commencer à écrire. Et puis, en fait, les murs sont tombés les uns après les autres. Le financement, trouver les bons acteurs, le film qui se passe, le distributeur qui rentre, Cannes, les Césars, mais tout, en fait, les festivals.
Et au bout du compte, le public qui vient.
Ouais.
Parce qu'il y a beaucoup de films primés, magistralement, glorieusement primés, qui ne déplacent pas le public, des artistes, si, en noir et blanc, muet. Et le public est venu massivement.
Oui, et puis voir au final 3 millions 2, je crois, de personnes... Pour un film muet, noir et blanc, c'était absolument fantastique. Mais c'était absolument fantastique. Donc non, j'ai vécu ça avec sourire qui ne décrochait pas, quoi.
On retrouve tout de suite Michel Hazanavicius.
Europe 1. Des souvenirs, des anecdotes, des confidences, un parcours de vie. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Il se poursuit donc avec Isabelle Morizet et son invité jusqu'à 16h sur Europe 1. Et aujourd'hui, c'est le réalisateur de The Artist et OSS 117, Michel Hazanavicius.
Michel Hazanavicius, après le triomphe des deux premiers opus de OSS 117 avec Jean Dujardin, on était persuadé que le troisième volet de cette saga vous réunirait à nouveau quelque part en Afrique pour d'autres aventures aussi irrésistibles qu'improbables. Ça fait donc 10 ans qu'on attend une suite à OSS 117, Rio ne répond plus. Cette suite, Jean Dujardin est en train de la tourner au Kenya, mais vous êtes ici, avec nous à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Il s'est passé que les producteurs et Jean voulaient faire ce film-là, à ce moment-là, et moi je ne voulais pas faire ce film-là à ce moment-là. Donc
C'est-à-dire qu'au même moment, vous vouliez tourner Le Prince oublié avec Omar Sy.
Oui, absolument. Et puis c'est vrai que ce film-là n'était pas forcément celui que j'aurais aimé faire, mais en fait, bon, eux, ils voulaient faire celui-là, donc voilà.
C'est-à-dire que vous avez eu le scénario du troisième opus, et il ne vous a pas séduit.
Mais c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, le premier, j'avais quand même... pas mal réécrit. Le deuxième, j'avais beaucoup coécrit. Et celui-là, il est arrivé un peu... tout fait, quoi. Et c'est vrai que je me reconnaissais pas trop là-dedans, donc je le sentais moins.
Et l'humour réac de l'agent OSS 117 que vous évoquiez tout à l'heure en début de conversation et qui est pas si évident à manipuler, vous pensez qu'en 2020, 10 ans plus tard, c'est encore plus délicat ?
Bah, ce n'est plus mon problème en l'occurrence. Je pense qu'ils vont faire quelque chose qui est adapté aujourd'hui. Je ne sais pas exactement ce qu'ils vont faire.
C'est de bonne guerre que Nicolas Bedos soit aux manettes, en train de tourner en ce moment au Kenya avec Jean Dujardin dans le viseur.
Eh ben, bien sûr.
Bon, revenons à vous, Michel Hazanavicius. Vous affirmez, je n'ai pas l'ambition de fabriquer une œuvre. Bon, en cela, on peut trouver une similitude avec Patrice Lecomte, qui est parti des Bronzés pour faire La fille sur le pont, ou La veuve de Saint-Pierre, ou Ridicule. Votre trajectoire, à vous, elle va d'OSS 117 à The Search. Ou, par exemple, pour nous livrer aujourd'hui un film familial très ambitieux avec du fantastique, Le prince oublié. Bon, faire une œuvre, ça n'est pas forcément creuser le même sillon, c'est ça ? Mais vous, vous dites, non, c'est pas du tout mon ambition de faire une œuvre.
Oui, c'est-à-dire que ça ne rentre pas dans ma manière de prendre des décisions, c'est ça que je veux dire. Après, je me dis, à la fin de ma vie...
Ben c'est ça, j'allais vous poser la question, au bout du compte.
Eh ben, je regarderai mes films, mais je me dirais, est-ce que c'est vraiment n'importe quoi, comme des fois j'en ai l'impression, ou est-ce qu'il y a une cohérence, ou est-ce que...
Parfois, vous avez l'impression
de faire n'importe quoi.
Non, ça c'est un excès de modestie.
Si, des fois je me pose des questions. C'est bizarre d'aller faire des trucs comme ça. Je me pose vraiment pas tellement la question. J'ai vraiment l'impression de bricoler, quoi, si vous voulez. Donc je fais ça, ouais, le mieux que je peux.
Alors parlons de votre vie. Vous êtes un réalisateur qui adore l'étape du montage, car ouais. Vous trouvez que c'est un moment très créatif. Bon, je vais vous poser une question sûrement naïve, ouais. Mais il y a un truc qui m'interpelle. Il ne vous est absolument jamais arrivé, Michel Hazanavicius, qu'au montage, vous ayez finalement besoin d'un fragment de scène qui n'a pas été tourné et qui donnerait, je ne sais pas, du lien, du sens, une aération à ce que vous êtes en train de monter.
Ah ben si.
Alors ouais. On fait comment dans ce cas-là ?
Ah ben on pleure. Arnaud Desplechin, il a dit une phrase un peu marrante, il était en montage, et quelqu'un lui dit « ça se passe bien », il a dit « écoute, je croyais que j'étais Dieu sur le plateau, et puis là, en montage, je pleure sur mes péchés ». Il y a un peu de ça, qu'est-ce que vous voulez faire ? Les Américains sont plus malins, ils prévoient, en fait, dans la manière de prévoir le film, ils prévoient de faire ce qu'on appelle des retakes, c'est-à-dire une fois qu'on a tourné et qu'on se rend compte qu'il manque quelque chose, il est prévu d'aller retourner
avec les acteurs qui se rendent disponibles.
Exactement.
Et ça n'existe pas
en
France.
Non, c'est très rare. Ça peut exister, mais c'est vraiment pas l'usage. Et c'est dommage, parce qu'effectivement, il y a des fois, je me mords les doigts. Je me dis,
ça vous est arrivé ?
Ah ben bien sûr. Et puis
on peut savoir, par exemple, non, on ne va pas donner les secrets de fabrication, mais allez, dans quel film y a-t-il le petit fragment qui...
Il y en a par exemple dans le dernier, mais je ne vais pas vous le dire.
Non, il faut aller le voir dès le 12 février en salle.
Non, mais bien sûr que ça arrive. On n'est jamais ravi de ce qu'on a fait. On sait très bien qu'on aurait pu faire un peu mieux.
Alors justement, le dernier, Le Prince oublié, qui sort le 12 février. C'est combien de milliers de plans à monter en choisissant d'en raccourcir ou d'en retirer certains ?
Je ne sais pas, il doit y avoir deux plans tournés, une quinzaine de plans par jour à 55 jours de... Je ne sais pas, ça fait 700 plans peut-être, quelque chose comme ça.
700 plans.
Mais 700 plans tournés. Après,
oui, c'est ça.
Y en a qui reviennent plusieurs fois dans
avec des champs, des contre-champs, donc ça fait beaucoup plus. Donc on peut parler de milliers.
Oui, mais... après moi je n'ai pas ce truc de faire des listes et de faire des comptabilités et tout ça, mais oui, j'imagine. Ouais.
J'ai appris qu'il y avait certains personnages imaginaires complètement fous qui ont disparu au montage. Pourquoi ? Que justement les jeunes créatifs virtuoses du digital vous avaient proposé et finalement vous les avez pas gardés.
En fait, ils ont proposé des personnages, donc pour raconter un peu ce monde imaginaire, c'est des personnages un peu, par exemple il y a un poulpe en peluche, c'est très compliqué d'animer un poulpe et on a un petit génie qui a fait ça, donc on l'appelait l'octopluche, c'est un poulpe en peluche qui bouge et tout ça, lui on l'a gardé, mais il y en avait un que j'adorais, qui était une boule, mais c'est un sumo en fait, mais le sumo était compris dans une compressée en boule, donc il roulait sur lui-même, mais on n'arrivait pas bien à le diriger, donc en fait les trajectoires qu'on avait, elles n'étaient pas cool, donc finalement on a décidé de ne pas le mettre, et parce qu'il fallait être créatif, mais créatif aussi dans des budgets qui étaient les nôtres, quoi. C'est-à-dire, on n'a pas, vous le compariez très gentiment, le film à Pixar.
Ah non, c'est pas gentil, c'est un constat, c'est-à-dire on a l'impression que les gens de chez DreamWorks et de chez Pixar se sont réunis pour tous ces effets spéciaux.
Sauf qu'on l'a fait pour beaucoup moins cher. Donc il y avait des petites contraintes comme celle-là, c'est-à-dire que changer les trajets de ce sumo boule, c'était compliqué. Donc il y a quelques personnages comme ça que finalement on n'a pas mis, mais qui était marrant sur le papier. Ouais. Mais il en reste plein, ouais, absolument, il en reste plein.
On se retrouve tout de suite, Michel Hazanavicius.
Un extrait de la bande originale du film The Artist qui a valu à Jean Dujardin le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes en 2011 et l'Oscar du meilleur acteur. Une musique signée Ludovic Bourse, jouée et enregistrée par le Bruxelles Philharmonic et le Bruxelles Jazz Orchestra. Son réalisateur, Michel Hazanavicius, est avec nous cet après-midi.
Europe 1.
Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Et on retrouve donc Isabelle Morizet et son invité pour quelques minutes encore.
Michel Hazanavicius, tous les réalisateurs de films n'ont pas la chance d'avoir pour muse la femme de leur vie. Vous, si, avec Bérénice Bejo. Comme c'est le cas d'ailleurs pour Guillaume Canet avec Marion Cotillard ou Roman Polanski avec Emmanuel Seigné. Mais vous n'êtes pas jaloux et il paraît que vous aimez que votre femme tourne sous la direction de grands réalisateurs comme Asghar Farhadi, Joachim Lafosse, Marco Bellocchio. C'est vrai, ça ?
Ah bah oui, carrément. Mais oui, parce qu'en fait...
Vous aimez la voir vous échapper.
Non, je le dirais pas comme ça. Non, mais d'abord, j'aime la voir s'épanouir, j'aime la voir heureuse dans le métier qu'elle fait. C'est pas évident pour une actrice d'enchaîner des beaux rôles comme ça, donc et de travailler avec des bons réalisateurs. Donc, je suis vraiment content quand elle est heureuse. Ça, c'est la première chose. Et puis, puis en plus, j'ai un peu l'impression de la redécouvrir. Et puis, c'est une chance énorme quand vous aimez quelqu'un, en plus de l'admirer.
Bien sûr.
Donc, vous admirez d'autant plus une actrice.
Ça nourrit tellement l'amour, l'admiration.
Bien sûr. Et si elle est dirigée par de grands réalisateurs, vous l'admirez d'autant plus.
Mais alors, est-ce que vous osez vous aventurer sur les tournages quand elle est dirigée, par exemple, par Asghar Farhadi, pour qui elle a tourné le passé, ou bien vous préférez vraiment... invisible.
Sur les plateaux, non, jamais. En revanche, je les rencontre souvent et on est souvent copains. Là, elle vient de faire un film avec un jeune réalisateur israélien qui s'appelle Tom Cheval, qui est vraiment très très bon. Et j'ai été la voir et oui, on est copains, mais je passe pas sur le plateau. Ce serait pas très... Je sais pas, ça je le sens un peu moins.
Bon, un an après son César pour The Artist, votre épouse Bérénice Bejo a remporté le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes. Justement, pour son rôle de mère, j'évoquais le film Le Passé d'Asghar Farhadi. Vous étiez à ses côtés quand on a fait l'annonce, c'est ça ?
Oui, bien sûr.
Vous étiez... Ah, bon.
Mais on s'y attendait... Pas du tout, parce qu'en fait, parfois, vous êtes au courant de qui va avoir quoi. On vous demande de revenir à Cannes parce qu'il y a un prix. Des fois, vous savez quel est le prix.
Non.
Non, pas du tout. Et en fait, elle était persuadée que c'était un prix soit pour Asghar, soit pour le film. Voilà. Et en fait, quand ça lui est tombé dessus, il y a eu vraiment un temps... Le temps que l'information atteigne son cerveau, il y a eu un vrai délai. Mais vraiment, tout le monde s'est regardé, etc. C'était incroyable. C'était incroyable. C'était d'autant plus incroyable que, encore une fois, ce n'était pas attendu.
Donc, c'était pas attendu.
Ouais.
Et c'était très joli un an après, finalement, les Oscars, parce qu'elle a été nommée aux Oscars pour des artistes.
Ouais.
Bon, elle ne l'a pas eu, mais un an plus tard, c'est le prix d'interprétation à Cannes.
Oui, mais quand on dit elle ne l'a pas eu, ça sonne un petit peu comme un échec. Mais,
alors que c'était une stratégie, paraît-il.
Ah oui,
Weinstein.
Oui, pas de perdre, mais de
non,
la
non,
mettre,
mais de la mettre.
En second rôle.
C'est ça. Voilà.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes quand même dans un club de malades. Vous êtes nominé à 5 pour les Oscars, donc on ne perd pas quand on est dans les...
Bien sûr.
Voilà, donc
bien
là, il y a Lajli qui est avec Les Misérables. Je lui souhaite de gagner. D'ailleurs, je pense qu'il a une bonne chance, mais quoi qu'il arrive... C'est déjà gagné. Mais de loin. Enfin, je veux dire, le truc est ultra positif déjà. S'il a la statuette, tant mieux. S'il ne l'a pas, faudrait être fou pour penser que c'est un échec, quoi.
Michel Hazanavicius, c'est pas anodin de faire tourner sa femme, de la diriger, de la mettre en scène pour que la caméra vole le meilleur d'elle-même, filme son âme, et parfois la filmer d'ailleurs dans les bras d'autres hommes, lui demander cette sincérité, cet abandon que vous êtes seul en droit d'espérer, c'est pas anodin.
Non, mais vous savez, le cinéma et elle et moi, on s'est mariés avec le cinéma d'une certaine manière, en plus de elle et moi, et donc on de pouvoir ensemble jouer avec le même jouet, c'est quand même hyper agréable. Donc non, c'est pas anodin. Des fois, c'est marrant. Il y a une scène de baiser là dans Le Prince oublié avec Omar Sy. Donc évidemment, alors toutes les filles sur le plateau étaient comme des dingues parce que Bérénice allait embrasser Omar. Mais le truc un peu marrant que je peux vous raconter, c'est qu'on a à l'avant-première avec la projection équipe avec mon fils qui a 11 ans. Il a 11 ans, donc de toute façon, dans un film, quand un homme et une femme s'embrassent, il détourne les yeux, il trouve ça dégueulasse, il fait des machins et tout. Et là, donc Bérénice, sa mère et Omar, alors là, il a détourné les yeux et dans le creux de l'oreille, il m'a dit « C'est encore pire quand c'est maman.
Ah, » C'est merveilleux.
Mais si vous voulez, moi, j'ai plus 11 ans, en fait. Enfin, tout va bien. C'est un baiser de cinéma. Donc,
bon, le 12 février, on retrouve donc Bérénice Bejo aux côtés d'Omar Sy et de l'irrésistible François Damiens. On n'avait pas eu le temps de parler de lui, mais quelle personnalité. On le retrouve en grand escogriffe dans cette comédie fantastique, Le Prince oublié.
Oui, mais il est très marrant.
Ah, il est formidable.
Il est tout le temps marrant.
Toujours. Mais je sais que vous travaillez déjà, Michel Hazanavicius, sur un film d'animation adapté du livre de Jean-Claude Grimbert, La plus précieuse des marchandises ou La déportation des Juifs au cours de la dernière guerre. Pourquoi cette fois-ci ce projet, adapter le livre de Jean-Claude Grimbert en film d'animation?
Eh bien pareil, je ne suis pas sûr que j'aurais eu l'audace ou le courage, je ne sais pas, d'y aller de moi-même, de décider ça. Mais c'est une proposition, on m'a envoyé le livre avant qu'il ne soit publié. Et en fait, c'est une histoire qui est tellement belle, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire.
Pas encore.
Et ben, c'est un livre magnifique, c'est un conte très court, mais qui effectivement tourne autour de la déportation, comme toute l'œuvre de Jean-Claude Grimbert, alors qui lui, par contre, est très orienté. Lui,
oui,
il papillonne pas, voilà, c'est son sujet.
Mais cette fois-ci, il l'a traité sous forme de conte.
Exactement.
Assumé, un conte qui parle de résilience.
Oui, alors moi j'ai pas mal hésité, puis en parlant avec lui, il m'a dit j'ai voulu montrer que même dans l'horreur de cette histoire, il y a quand même des belles choses à aller chercher, il y a quand même des belles choses à raconter. Et j'ai trouvé ça, pour un homme de 80 ans, d'une puissance et d'un optimisme, d'une certaine manière, ou en tous les cas d'avoir quelque chose qui est tourné vers la vie et positif. Et j'ai trouvé
comme
cette
il pouvait
histoire.
Y avoir de belles choses dans La vie est belle, justement.
Exactement.
Qui a été primé à Cannes.
Ouais, c'est un peu un autre, il passe par un autre endroit. Ouais. Mais c'est vrai que tout d'un coup, donc la déportation, les camps, etc., pour moi, il n'y a, mais ça ne me concerne que moi, il n'y a que l'animation qui me permet, moi, d'approcher ce thème-là.
Pudeur.
Oui, c'est soit l'animation, soit la comédie, mais vraiment la comédie. Mais, mais là, on s'approche concrètement de la déportation. Et donc, effectivement, je ne me vois pas du tout avec 400 figurants en train de leur demander de prétendre que ce sont des déportés, je le vois pas. Dans cette
Vous êtes issu d'une famille juive ashkénaze laïque. Ce prochain film peut être un outil de transmission auprès de tous les enfants qui ont l'âge des vôtres et qui doivent savoir. Puisque
c'est
justement, il est
ça,
sous forme, il sera sous forme d'animation.
Ouais, en fait, j'ai pas du tout l'âme d'un prof. Hein, c'est pas du tout ça. Donc, je suis pas sûr que ce soit ça. En revanche, c'est une histoire qui, jusqu'à présent, avait encore des survivants. C'est une histoire qui a toujours eu, depuis la fin de la guerre, une espèce de caractère sacré. Mmh. Il y avait pas 36 000 manières d'en parler. Il y avait une manière d'en parler qui était un peu étouffante, même pour plein de gens, etc. Et là, je crois que c'est un événement qui est en train de basculer dans l'histoire, au même titre que pour ma génération, c'était la Première Guerre mondiale, ou pour la génération d'avant, la guerre de 1870. Donc, il y a une espèce de distance qui est en train de se mettre en place. Et c'est vrai qu'il y a peut-être d'autres manières de raconter qu'on peut se permettre ou qu'on peut, qui ont mérite de, qu'il faut faire venir en tous les cas. Il faut chercher, comme s'il y avait un champ un peu qui s'ouvrait sur cette histoire-là.
Alors, en attendant de découvrir ce prochain film dont le tournage n'a pas démarré, eh bien, on va pouvoir se régaler avec Le Prince oublié qui va embarquer autant les enfants que leurs parents. Et j'aimerais bien savoir, puisque hélas, cette conversation va s'achever, Michel Hazanavicius, j'aimerais bien savoir si vos enfants ont eu le privilège d'assister à ce tournage aussi épique que surréaliste, avec de la magie à tous les étages. Vous les avez fait venir
ou
pas?
Oui, ils sont venus, alors ils sont régalés. Bon, alors, de toute façon, pour les enfants... un plateau de cinéma, c'est comment dire, c'est un super jouet. Enfin, c'est tout est jeu. Il y a des gens déguisés.
En plus, avec Omar Sy, des décors complètement fous. Les effets spéciaux, de la magie.
Ah, les effets spéciaux, ils ne les voyaient pas vraiment. Oh, ouais. Mais ils sont venus, ils suivent, ils viennent me chercher de temps en temps au montage, ils viennent. Donc ils regardent, en fait, c'est un peu leur environnement. Mais c'est vrai que le plateau, toutes ces couleurs, tous ces déguisements, tous ces trucs, etc. Il y avait des trottinettes électriques, des machins, et des vélos, c'était un peu leur Luna Park, quoi.
C'était la folie à Bry-sur-Marne.
Ils étaient hyper heureux. À chaque fois qu'ils venaient, ils voulaient y revenir après.
Bon, ouais. Ceux qui le découvriront en salle à partir du 12 février seront hyper heureux. Merci infiniment.
Merci à vous.
Pour cette balade, Michel Hazanavicius. On se dit à très bientôt, n'est-ce pas ?
Mais avec grand plaisir.
À bientôt alors.
Au revoir.
C'était N'y a pas qu'une vie dans la vie. Et n'hésitez pas à vous replonger dans cette conversation sur europe1.fr. Et rendez-vous le week-end prochain dès 15h sur Europe 1 pour retrouver Isabelle Morizet en compagnie de deux nouveaux invités. Pierre-François Martin Laval, ex-Robin des Bois, et puis le compositeur Jean-Jacques Debouffe. À suivre, l'équipe est sauvage de Mathieu Noël.